Eh non, ce n'est pas du gloubi-boulga. C'est de l'herbe. De l'herbe.
Bonjour à tous, c'est Dany Baillet à Saint-Sevé, Lou Gourmandas, comme me surnommait ma mère. Et aujourd'hui, nous allons parler de vin sur votre radio locale, 101.1 Armand-Marsan, c'est MDM bien sûr, et 93.8 Chalosse-Tursan. Aujourd'hui, comme je vous le disais, dans notre répertoire gourmand, nous allons parler de vin. Alors, sans grande prétention, en essayant de parler de l'histoire du vin, des différentes appellations, des plus grands que nous connaissons, des associations de mets et de vins, aussi des vins locaux, bien évidemment. Et à la fin, nous aurons un petit débat sur l'immense progrès de la viticulture moderne, mais aussi de ses limites, des limites d'un système, et du nouveau regard porté par les gens, et notamment par les femmes et par la jeunesse, sur le vin. Voilà, un programme vaste, mais des plus intéressants. Comment vous dire ? Mais le vin, pour moi, c'est une invitation au voyage, c'est l'une de mes grandes passions depuis maintenant 35 ans, où j'ai eu la chance de rentrer dans un club très huppé, prestigieux de Mont-de-Marsan, le club Montois du vin, dans lequel, grâce à l'entremise d'une quarantaine de médecins spécialistes, ce club a vu le jour et m'a permis de faire des dégustations de haut vol, parce que ces gens étaient des passionnés, et aux confins de toutes les appellations quasiment du monde. Donc c'est une chance que j'ai eue, ce petit voyage initiatique, et bien parce qu'il est petit à mon niveau bien sûr, je voulais essayer de vous en faire part, et de vous dire un peu comment je voyais tout ça. Pour moi donc, le vin, je vous l'ai dit, c'est une invitation au voyage. Et le chemin commence par l'extraordinaire diversité des terroirs et des cépages présents sur notre planète, parce que c'est de planète qu'il faut bien parler aujourd'hui quand on veut parler de vin. Et ce voyage, il a été peaufiné, travaillé et pensé grâce à l'aide des hommes et des femmes, et maintenant beaucoup des femmes d'ailleurs, qui se tiennent tous les jours et par tous les temps à son chevet. Tout ça n'est pas rien, il faut visiter des régions viticoles, et pour visiter des régions viticoles, c'est d'abord des rencontres, bien sûr, avec des gens, avec des paysages, une façon d'écouter, et évidemment, ça sera le leitmotiv du vin depuis toujours, et je pense pour les générations à venir, le vin, c'est le partage. Partager avec eux le travail, les passions, et tout ceci, bien sûr, nous permet de nous enrichir dans notre relationnel, bien sûr, dans notre façon de vivre, parce que le vin, c'est partager, ça veut dire passer des moments ensemble, avec l'obligation quand même pour les professionnels de remettre chaque jour sur le métier ses doutes et ses efforts. Pour ce qui est un peu de l'histoire, mais très rapidement, la vigne ancestrale, eh bien, elle commence avec les guerres, dès le Moyen-Âge, même avant, hein, mais les défrichements qui ont occasionné les guerres de terrain s'en sont suivis de plantations, souvent de vignes, mais aussi de forêts. Les forêts ayant poussé plus naturellement. Donc les vignes étaient posées au sol de façon la plus sauvage qui soit, comme il en existe encore un petit peu en Corse. Au premier plan des régions sollicitées donc par les guerres, bien sûr, c'était l'Europe et notamment la France, l'Italie et l'Espagne, depuis les Romains, puisque sur toutes ces guerres de terrain, on a beaucoup de textes de Pline l'Ancien notamment, qui explique quel était le ravage fait par ces guerres sur le terrain et naturellement tout le travail qui a été mis en place derrière, un travail intelligent, très réfléchi, très constructif pour développer la culture de la vigne. Aujourd'hui, difficile d'échapper, force climat oblige et transfert de connaissances bien sûr, à la fascinante diversité des vignobles d'Europe de l'Est, dont nous pourrons parler un peu, mais aussi du Proche-Orient. C'est aussi, et on ne peut pas l'ignorer, le nouveau monde qui s'est mis en place maintenant au cours d'une organisation très structurée, peut-être très financiarisée, qui donne le fonctionnement actuel du vin. C'est l'histoire des USA, bien sûr, mais aussi de l'Argentine et du Chili, tout ce qu'on appelle les vins du Nouveau Monde. Mais d'où vient aussi le secret de certains vins incroyables? Eh bien, c'est d'Inde et aussi de la Chine. Vous vous rappelez, il y a quelque temps, j'étais à ce micro pour vous parler de mon voyage en Chine populaire en 1979, où en 6 mois et demi, j'ai traversé tout le pays pour travailler à la réforme agraire. Je me rappelle notamment près de Shanghai, d'une culture assez expérimentale à l'époque, de Riesling, donc un cépage très connu en Alsace, un cépage roi de l'Alsace, qui donnait des vins secs et des vins moelleux, dans cette région de la Chine qui connaissait en moyenne montagne un microclimat un peu océanique malgré le fait qu'il soit à l'intérieur des terres, très particulier, qui permettait le développement de la vigne et notamment du Riesling. Depuis, la Chine s'est mise non seulement à copier les châteaux de Bordeaux dans leur architecture pour les nouveaux riches, mais aussi à la mise en place de gens formés en France, bien évidemment, pour mettre en place de beaux domaines. Et en moyenne montagne, il y a aussi, il faut le dire, aujourd'hui de très belles réussites. Pour parler du vin, c'est aussi parler des différentes appellations. Et bon, si on veut se contenter de la France, c'est déjà beaucoup, c'est quand même un peu le pays phare. Pour parler des trois plus grands, on pourrait parler de la Champagne, on pourrait parler de la Bourgogne et évidemment de Bordeaux. Donc la Champagne, eh bien, ce sont essentiellement des grandes maisons qui font la renommée internationale, hein, tous les Krug, les Rederer, bien sûr les De Venoges et le Dom Pérignon, donc de cette région, pour ne citer que les phares. Mais il y a aussi bien sûr plein de champagnes de petites coopératives, de propriétés, y compris celle de l'Aube, dont mon frère est le dépositaire, et je le dis en passant, c'est un petit clin d'œil très sympa pour le rapport qualité-prix, c'est le domaine Trévenin. Voilà, en tout cas, bon, la Champagne, bien sûr, c'est magnifique, c'est l'histoire d'un terroir très ancré, dans des sols très à part, crayeux, schisteux, et aujourd'hui, autour de Reims, bien sûr, se groupent les très grandes maisons, et trois cépages sont en place depuis le début de cette appellation qui a commencé par s'appeler des vins mousseux à la fin du 19e siècle, puis des grands vins mousseux de Champagne, puis petit à petit, le Champagne tout court, qui a su, ce que n'ont pas su faire dans beaucoup de productions, les paysans locaux, ben, installer un syndicat, mettre la main sur la production et aujourd'hui délimiter une appellation pour permettre d'avoir un prix garanti, car ces vins souvent sont exploités par quelques grandes maisons, mais la production est restée maître de son destin. Et ça, c'est à signaler. Trois cépages dominent en Champagne. Le Pinot Noir, que l'on connaît aussi notamment en Bourgogne, bien évidemment, et certaines appellations de Beaujolais-Château, mais surtout la Bourgogne. Le Pinot Meunier, un vin proche encore. Et le Chardonnay. Alors la grande originalité des vins de Champagne, c'est que ce sont pour 96% des vins rouges, mais à jus blanc. C'est-à-dire que le Pinot Noir et le Pinot Meunier sont serrés, leur jus blanc est récupéré, mis à part, et si on laisse les baies, les peaux, à macérer avec ces jus qu'on va piger, c'est-à-dire mélanger de temps en temps au jus, et bien petit à petit on obtiendra des rosés clairs, des rosés plus foncés, voire même des vins rouges, comme c'est dans la région de Bouzy, en Champagne, qui fait un champagne rouge, assez surprenant, mais confidentiel, bien évidemment. Donc je ne vais pas trop m'étendre, tout le monde connaît tout ça. Sur la Bourgogne, il y aurait beaucoup à dire, elle a de noms tellement beaux, avec deux très grandes régions. Le Triangle d'Or de Beaune, bien évidemment, quelque chose d'assez extraordinaire. La côte chalonnaise, un peu au-dessus, jusqu'à Viré-Clessé. Et puis, quelque part, un lot à part dans Lyon, du côté d'Auxerre, le pays du football, où là, eh bien, si vous allez à Londres, vous demandez un verre de vin blanc, on vous servira un Chablis, le vin roi de cette région, et appellation très à part en Bourgogne, au sud de la Bourgogne. Des types de vins différents, des régions différentes. En reparlant des appellations en détail, je vous reparlerai tout à l'heure, bien sûr, de la Bourgogne, parce que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et qui mérite bien sûr qu'on s'y arrête, qui est tellement complexe et qui a de tellement jolis noms que je ne vais pas bien sûr passer le cap sans vous en parler. Concernant les Bordeaux, eh bien, L'appellation Bordeaux, elle est délimitée par la Garonne notamment, et la Dordogne, donc les fleuves qui traversent la région. Et d'amont en aval, on a ce que nous appelons la rive droite quand on regarde vers l'aval. Et la rive gauche, rive droite, eh bien, elle part du côté de presque du Lot-et-Garonne, là-bas. La région de Castillon-la-Bataille, donc les côtes de Castillon. Puis la veine de Saint-Émilion, sur le haut de Saint-Émilion, avec ses grandes appellations. La côte Pavie, le quartier de Mondeau, le quartier de Val, enfin, beaucoup de grands quartiers de Saint-Émilion où sont concentrés tous les crus classés. Et en continuant Saint-Émilion, on arrive dans ses satellites, Montagne, qui fait la liaison avec Pomerolles et Saint-Émilion, avec Lussac, avec Puisseguin, qui sont les appellations satellites de Saint-Émilion, tout ça sur la rive droite. Puis, on arrive en suivant à la région de Pomerolles, sublimissime. Pomerolles et son second, la lande de Pomerolles, jusqu'à Mazères et jusqu'à la frontière de la Charente. Ensuite, Fronsac, une appellation un peu moins connue, mais sublime, puisque chouchoute des Canadiens. Ensuite, bien sûr, le Bourget, le Blayais-Bourget, le Bourg, la côte de Bourg, qui est une superbe colline, un ensemble de superbes collines vers l'estuaire de la Dordogne et de la Garonne, et ensuite la côte de Blaye, bien sûr, tout à fait à l'estuaire. Ceci pour la rive droite, voyez la complexité des endroits, rive droite où prédomine le cépage Merlot, mais bien sûr, il partage le territoire avec le Cabernet Sauvignon, le Cabernet Franc, un peu de Malbec, et puis un cépage un peu moins connu, le Petit Verdot. Concernant la rive gauche de Bordeaux, si on la reprend de plus haut, eh bien on prend la route depuis les Landes vers Mazères, Mazères-Langon. Ici se trouve toute la région d'abord des Sauternes, sublime, absolument et sublimissime, hein, avec la côte du Haut Peyraguet, la forêt Peyraguet, Cigalas, Rabot, Rabot promis, pour ne citer que les quatre de Beaume, du village de Beaume, qui font la colline du village de Beaume, avec Iquem au-dessus, Rieusec en bas, et la Reine Vigneault. Voilà le pôle clé du centre des grands crus sauternés. Là-dessus, vous continuez la route le long du fleuve et vous êtes dans les Graves, du côté de Portets, de très très jolies Graves, de Landiras, Portets, pour arriver bien sûr dans la ville de Bordeaux, fondatrice des Bordeaux, qui en a quatre qui sont dans son cœur. Ces quatre Bordeaux sont dans l'appellation aujourd'hui Pessac-Léognan. C'est le Haut-Brion qui, pour moi, doit être goûté une fois dans sa vie. Il ne faut jamais mourir sans avoir goûté du Haut-Brion, tellement qu'il est fabuleux, qu'il est à part, qui appartient aujourd'hui au prince du Luxembourg. Par filiation de la famille Dillon, Clémence Dillon, qui était des marchands de Rome, bien connus dans le monde entier. Le pape Clément, bien sûr, aujourd'hui propriété de Bernard Magret, très très grande propriété au cœur de Bordeaux. Le Pic Caillou. Et la mission Haut-Brion, bien sûr, qui est l'alter ego de Haut-Brion de l'autre côté de la route. Donc quatre crus, mais pas que ça. Une quarantaine de Pessac-Léognan, dont beaucoup sont classés. Quand je parle de classement, il s'agit du classement de 1855, bien sûr, fait par des experts bordelais et aussi donc par des propriétaires. Ce classement qui, malgré tous les amendements qu'on en a pu apporter au sol, tous les appuis techniques et scientifiques sur la culture et l'élevage du vin, eh bien, marquent encore d'un côté et l'autre d'une petite route, Pomerolles et la lande de Pomerolles, par exemple, et territoire déjà défini par les Romains, c'est pas rien, puisqu'à l'époque de la voie appienne, les Romains avaient défini les routes en tenant compte déjà de ces appellations et des différences qui existaient. Alors même que nous avons beaucoup fait de progrès, eh bien, on ne peut pas dire le contraire. Il y a encore des différences entre un Pomerolles et un Lalande de Pomerolles. Voilà, les autres régions de vin, eh bien écoutez, je vous en parle bien sûr en suivant. Pour notamment le Sud-Est, le Sud-Ouest, le Jura et la Savoie, le Pays de Loire, l'Alsace et le Beaujolais, avant de refaire un point détaillé sur les grands crus. Nous sommes bien sûr déjà en pleine dégustation et dans le Goulayant. Je vous propose une petite pause musicale avec ceux qui ont bercé ma jeunesse, les Led Zepp.
You need cool air, baby, I'm not MDR. Action, bonsoir à tous, mesdames et messieurs.
Salut, cher auditeur.
Je vous propose d'écouter
MDM sur le 93.8 et le 101.1.
À la technique, Pierre-Alain qui a son bouquin dans la poche.
Camille avec la petite yeux encore.
Je sais pas pourquoi je suis là.
MDM.
Salut, c'est Lou Gourmandaz, vous êtes bien sur MDM, 93.8 Saint-Sevé, Chalosse-sur-Sang, 101.1 Mont-de-Marsan. Bien sûr, nous avons parlé de la Bourgogne, nous avons parlé de la Champagne, nous avons parlé des grands Bordeaux. Alors, je ne vais pas passer mon tour sans vous parler, bien sûr, des vins du Sud-Ouest. Aujourd'hui, ben, ils font de grands progrès, à commencer par notre plus proche voisin, le Tursan, qui s'exporte jusqu'à la Chine. C'est quand même pas rien. C'est aussi le témoignage d'efforts faits par les producteurs, faits par la coopérative et par ses dirigeants. Je salue leur ami Régis Laporte par la même occasion, et le président Charles André et son vice-président Benoît Laborde, qui sont des gens qui font de la qualité, qui travaillent vraiment à élaborer des vins de qualité aujourd'hui. L'ami Jacques Lafenêtre, bien sûr, à Bourda. Donc le Tursan aujourd'hui très très bien placé, qui fait de belles choses, des vins d'exception, des cuvées spéciales, qui travaillent vraiment à élaborer quelque chose de très bon. Derrière, nous avons bien sûr les Madirans, le Madiranais, les Pacherinques blancs absolument sublimes, bien sûr, et donc le Jurançon, alors là, avec des gens qui sont aujourd'hui vraiment au plus haut niveau, avec des vins en terrasse, mais aussi de très très belles propriétés historiques dans le Jurançonnais. Donc les Jurançons, je l'ai dit, et les Roulégui, non, bien sûr, ça ne veut pas dire vinaigre en basque, c'est très vilain. Mais nous avons toutes ces pentes extrêmement accentuées et qui sont en plein soleil toute la journée, qui donnent aujourd'hui des vins vraiment sympas. L'Iroulégui a acquis ses lettres de noblesse, il est vraiment indépendant, il ne dépend plus des vins espagnols, comme on a dit, on a voulu dire du mal pendant des années, mais c'était peut-être vrai un petit peu. Aujourd'hui, l'Iroulégui a fait son trou. Voilà, donc ça c'est pour le Sud-Ouest, on en parlera bien sûr à l'occasion, on en reparlera. Bon, juste un passage sur Jura-Savoie, où des accords de vin et de fromage sont nés là-bas, avec l'Arbois et le Comté, pour ne parler que de cela. Mais il n'y a pas que l'Arbois en Jura et Savoie, il y a aussi le vin de paille, le Château Chalon, des vins sublimés qui, par des levures spéciales, donnent, avec une mise en fût pendant plusieurs années, presque 10 ans, ce vin couleur vieil or magnifique, le vin de paille, à déguster avec des fromages de pâte notamment. Alors aussi l'Arbois pupillien que nous connaissons, et puis le bergeron, chignien bergeron, qui est un cépage spécial de Savoie, qui accompagne très bien les raclettes et autres joyeuses soirées d'hiver. Ensuite, pour parler de la Loire, ben, c'est très 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 grand, c'est une très très belle région de vin, contrairement à ce que nous connaissons, avec deux cépages dominants, le Chenin de Loire, et les Sauvignons, bien sûr, qui donnent des vins à part, mais très secs. C'est beaucoup une région de vins connue pour les vins secs, c'est aussi une région très belle pour des vins liquoreux sublimes. Alors quand je parle des secs, je parle des Janières dans le nord, je parle des Mont-Louis, de Ruilly, des Quincy, évidemment des Sancerre et des Maine-Tout-Salon, aujourd'hui phares, un peu près de Paris à mon avis, les prix s'en sont immédiatement ressentis, mais quand même de vins assez sublimes. J'ai simplement un regret sur le Sancerre et le Maine-Tout-Salon, c'est que notamment dans le Sancerre, nous n'ayons plus le goût de pierre à fusil que j'ai connu dans ma jeunesse, qui était absolument sublime, et qui aujourd'hui, dans ses vins très gras, très beaux, beaucoup plus beaux bien sûr, qu'il n'était à l'époque, nous prive de ce goût de pierre à fusil. Je trouve que c'est vraiment regrettable. Ça ne fait rien. Alors dans le pays nantais, à côté ouest, deux cépages sont remis au goût du jour, et ça c'est tant mieux. Le gros plan du pays nantais, et le muscadet de Sèvres-et-Maine, qui bien sûr était jusque-là des vins de comptoir, connus pour vous incendier un peu les boyaux, mais c'est pas du tout ça aujourd'hui. Ces vins sont remis sur le devant de la scène, grâce au cépage Chenin, qui est beaucoup mieux travaillé, bien évidemment. Et voilà, donc bon, qu'il faut connaître, qui ne sont pas des vins à un prix élevé, au contraire, et goûter un petit apéritif de comptoir au gros plan, aller jusqu'au gros plan, en passant par le muscadet, hein, qui est quand même plus connu, vous verrez, c'est sympa. Alors, très à part, bien sûr, cette région, j'ai parlé du Sancerre, je n'ai pas encore parlé du Pouilly Fumé, bon, dont Didier Daguenau, le grand maître spirituel qui avait acheté un domaine en Jurançonnais, s'est tué malheureusement. Il a laissé son fils aux commandes, qui a pris très brillamment les commandes de cette propriété unique. en bouillie fumée de Loire, qui donne le meilleur accord avec mes anguilles quand il m'arrive d'en attraper dans la gabasse, bien sûr. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est la propriété de Daguenau. Sublime, sublime, absolument sublime. Mais des vins très particuliers, très à part, très fumés, très secs. Et après, il faut se dire aussi que dans la Loire, voilà, il y a deux grandes stars qui ont été mises au goût du jour. Et ce sont des liquoreux. C'est le quart de Chaume. Chaume, c'est le cépage qui servait à faire, non pas la paille, mais le cépage qui permettait de faire le vin. Et le Bonnezo, qui sont absolument à découvrir, que vous pourrez trouver même parfois dans la grande distribution. Pas pour les meilleurs, mais certains quand même. Donc, quart de Chaume Bonnezo, avec une propriété donc des Coteaux de Layon, mais sur que j'ai failli oublier, dans la Loire, Coteaux de Layon, quart de Chaume Bonnezo, dans l'ordre croissant. Et ensuite, bien sûr, une propriété unique, celle de la Gentilhommière, qui est l'île de l'estuaire de la Loire, tenue par la famille Joly, et Pierre-Nicolas Joly, qui s'appelle la Coulée de Serran, qu'il faut comme les grands vins, comme les Ikem, comme les Latour, comme les Montrachet, avoir goûté une fois dans sa vie, absolument. Donc voilà, la Loire, un pays absolument incroyable, incroyable de diversité. L'Alsace est bien sûr connu, bon, il est plus loin, hein, il est plus germanique, pour son Riesling, pour son Gewürztraminer, pour ses Pinots, blancs et gris. Mais surtout, j'insiste aussi pour que vous puissiez découvrir, ça va être les fêtes de Noël bientôt, chez les bons cavistes, l'Edels Vicaire, qui a deux différences par rapport aux autres. L'Edels Vicaire qui permet de rassembler plusieurs cépages. C'est un ensemble d'associations de cépages. Il est vendu au litre, il est facile à reconnaître, vous le trouverez chez les bons cavistes. Donc on connaît le Riesling, on connaît les Gewürztraminer, des grandes maisons bien sûr, il y en a plein. Edels Vicaire, soignez ce goût pour les fêtes de Noël. Sylvaner, qui aujourd'hui est remis au goût du jour, qui était celui qui était nommé comme le mauvais vin d'Alsace, et ça n'est plus le cas. De grands progrès ont été faits. Ensuite, tous les Pinots, bien sûr, d'Alsace. Toquet, ce qui veut dire la même chose, à peu près. Je voudrais quand même juste vous parler de ma façon de voir l'association mets et vins, bien sûr. Alors d'abord, règle d'or, pas de dictature, bien sûr. Concernant un menu type, parce que je vous ai quand même essayé de vous contacter un menu type pour donner des ordres de grandeur, mais bien sûr, encore une fois, pas de dictature. Tout ça, c'est le plaisir qui commande. Si nous prenons en entrée un foie gras d'oie, par exemple, moi, je le mange en premier parce que pour moi, il n'y en a qu'un de gras, c'est l'oie, mais ça n'est que mon point de vue. J'irai bien sûr assez rapidement sur un quart de chaume, sur un sauterne si j'ai vraiment envie de sucrer. Mais si, pour moi, j'ai besoin d'un peu plus d'acidité, un peu plus de gourmandise, de friandise, je prendrai un Bonnezo ou un Jurançon moelleux. Alors quand même, le foie d'oie à privilégier si on peut, mais le foie de canard ira très bien, bien évidemment. On le trouvera surtout plus facilement. Si je prends des asperges blanches, j'aurais plutôt un Pinot blanc d'Alsace, j'aurais plutôt un Jurançon sec, pourquoi pas. Je pourrais même aller vers d'autres appellations, mais j'irais plutôt sur des Pinot blancs d'Alsace et des Jurançons secs sur les asperges blanches. Si je prends des crustacés, ben, c'est les Edels Vicaire, bien évidemment, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est aussi l'entre-deux-mers sublime depuis quelques années dans le Bordelais. Si je prends de la charcuterie en entrée, ben, j'aurai des vins blancs, peut-être des petits bourgognes de la côte chalonnaise, petit n'est pas le mot, hein. Donc, Rully, Montagny, Viré-Clessé, des belles choses qui s'accordent très bien avec la charcuterie, qui sont gras, qui sont en même temps extrêmement charnus, très, très vifs en bouche aussi, avec une forme d'acidité, mais très cohérente, qui va bien avec les charcuteries, qui colle à la charcuterie, qui gomme un peu d'ailleurs le gras de la charcuterie. Sinon, je peux aller sur des Beaujolais, naturellement, pas très fort, très rond, le cépage gamay sur le fruit, qui va s'accommoder très bien de la charcuterie. Et je peux aller aussi, bien sûr, aujourd'hui sur des Irulegui, je le rappelle, ça ne veut pas dire vinaigre en basque, comme l'on dit, de mauvaise langue, bien sûr. Sur poissons et fruits de mer, mais plutôt les blancs secs, hein. Bon, on l'a dit donc tout à l'heure, mais la région foisonne de bonnes choses, des Jurançons secs et des Bordeaux, bien sûr, naturellement, notamment des Pessac-Léognan, mais même des Graves blancs et des vins de la rive droite, donc tout ce qui est entre deux mers. Concernant la poule au pot et des plats aux truffes, donc la poule au pot ou la poularde, que nous avons mijoté 5 minutes au torchon dans un bouillon de légumes et qui ensuite est récupérée et mise dans le four avec une partie de ce bouillon. Là, il faut aller vers les grands bourgognes blancs une fois dans sa vie, les grands bourgognes blancs, la déclinaison des Montrachet directement. Concernant le gibier, ben là, c'est la côte du Rhône septentrionale, bien sûr, qui va primer, ou méridionale. La côte rôtie, bien sûr, les ermitages, si on le peut, mais aussi les Châteauneuf-du-Pape, les Gigondas, les Lirac, les Vaqueras, des vins puissants, naturellement, mais aussi des Pessac-Léognan, ou, évidemment, si on le peut, si le gibier n'est pas trop fort, des Pomerols ou des Saint-Émilion de bonne facture. Voilà, pour ce qui est de la dégustation type, je vous l'accorde, aujourd'hui nous avons beaucoup parlé des vins blancs, c'est vrai que je suis un fou des blancs, notamment des grands blancs de Bourgogne, mais aussi des Bordeaux, des Pessac-Léognan, enfin de plein de régions, de la Loire, du Sud, enfin j'aime beaucoup les blancs, vous l'aurez compris, mais ceci n'exclut pas bien sûr l'envie et la possibilité de parler des vins rouges, et c'est ce que nous ferons. Je vous le propose dans une prochaine émission, donc sans tarder, rendez-vous sur nos ondes pour parler des vins rouges avec les associations de vins et de mets, les différentes régions, le plaisir, les évolutions et tant de choses dont nous parlerons bien sûr sur cette prochaine émission. Covid-19 ou pas Covid-19.